VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Nigeria, deux kamikazes présumés ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans deux explosions alors qu'ils tentaient d'entrer dans une mosquée lors d'une prière du Ramadan dans la ville de Maiduguri, fief historique de Boko Haram. Par ailleurs, au cours du week-end, l'armée nigérienne a affirmé qu'elle avait libéré 5000 otages du groupe djihadiste lors de plusieurs opérations dans le nord de l'état de Borno, près du lac Tchad. Des nouvelles non confirmées de sources indépendantes. Au Cameroun voisin, l'Assemblée générale du barreau camerounais vient de publier un rapport dénonçant la situation précaire des droits de l'homme dans le pays. Selon le rapport, il existe de nombreuses obstructions aux libertés d'expression, notamment la corruption et des détentions abusives. Les explications de maître Simon-Pierre Etémé du barreau camerounais.
Nous avons relevé que de nombreux écarts existent encore sur des questions de droit à la vie, des questions d'atteinte à l'intégrité physique, des questions de torture. Nous avons relevé que le problème de la privation de la liberté reste plutôt une grave endémie dans nos milieux de détention. On va en prison parfois pour rien, on y demeure pour rien. Un petit exemple, nous avons relevé que dans plusieurs cas, quelqu'un qui est relaxé ou acquitté aujourd'hui continue à rester en tôle 2 semaines. 3 semaines, on a eu des cas 1 mois plus tard. La première des solutions consiste pour nous à mettre en conformité notre droit interne avec le droit international. Parce que la plupart de ces écarts sont dus au fait que nous n'avons même pas à importer tout ce qu'on a pris comme engagement au plan international. La deuxième chose, c'est qu'on a relevé que l'accès au droit, qui est le fondamental, n'est pas assuré aux Camerounais.
Maître Simon-Pierre Etémé, un membre du barreau du Cameroun. En RDC, ajournement de 24 heures de la réouverture à Lubumbashi du procès de 32 Bantous et Pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements ayant opposé leur communauté au Katanga dans le sud-est du pays en 2013. La cour d'appel de Lubumbashi a constaté ce matin l'absence des accusés et des victimes et a décidé de renvoyer la reprise du procès à demain. C'est le troisième renvoi du genre pour ce procès dont la réouverture était initialement prévue le 16 mai. On reste en RDC. Les États-Unis continuent de suivre de près l'évolution de la situation politique dans le pays. Washington promet de ne pas en rester aux simples sanctions américaines imposées contre le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Il pourrait y avoir de nouvelles mesures si le président Joseph Kabila veut rester au pouvoir au terme de son dernier mandat. Écoutons Steve Weissman, ancien responsable à la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants des États-Unis, et auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ».
On attend un peu pour voir si Joseph Kabila va changer sa politique, si peut-être il voit que les pressions externes commencent à grandir. Il peut repenser sa politique de se maintenir au pouvoir. On ne l'accepte pas. Le département du Trésor des États-Unis a écrit « limité » à 2 mandats quand il essaie de continuer après les du mandat, et ça n'est pas acceptable. Si M. Kabila essaie de dire qu'un cour constitutionnel complètement dominé par lui, il a choisi les membres, dit que je peux rester, les États-Unis disent non, nous voulons que vous respectez la constitution lui-même, pas l'opinion des gens que vous avez désignés.
Steve Weissman, auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ». Dans le centre du Mali, au moins 15 personnes tuées et 46 blessées ce week-end dans les affrontements entre les habitants de 2 villages dans la région de Mopti. Les violences ont opposé des paysans de Koussouma et Mougna, près de Djéné, après un litige sur des terres cultivables. Le témoignage de Sékou Batraoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badeyakafo, dans la région de Mopti.
Le dernier bilan, c'est 15 morts. La cause, c'est un litige foncé qui date des années 40. Il y a eu plusieurs jugements. Parce qu'ils avaient commencé par le premier instant à Djéné, qui a donné raison à Mouna. Les consommateurs n'étaient pas d'accord, ils ont interdit l'appel. Mopti a confirmé la décision. D'autres l'ont approuvé en cassation. Le litige porte sur un lieu qu'on appelle Mouna Tchentien. Maintenant, le Mouna Tchentien, on les a fait savoir que ça appartient à Mouna, mais les gens de consommateurs ont 69 dans l'endroit, ce qui n'a pas plu aux gens de Mouna. Le dernier jugement qui a eu lieu courant 2014. qu'il y avait un juge qui était venu à Djémé de 2008 jusqu'en 2014. Personne ne cultivait l'endroit. Maintenant, l'année dernière, les gens de Kossoma ont eu à cultiver ça, ce qui n'a pas plu aux animaux. Cette année, le vendredi soir, il n'a plus encore. Les animaux matin, les gens de Kossoma sont sortis pour venir cultiver l'endroit. Entre temps, comme l'endroit est à 100 mètres de Mounia, mais à 11 km de Kossoma, les gens de Mounia sont sortis pour aller trouver celui de Kossoma là-bas. Bon, maintenant, c'est là où il y a eu à Fantoua. Et malheureusement, on déplore, comme M. le vient de dire, 15 morts, 48 blessés.
Sékouba Traoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badeyakafou dans la région de Mopti.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, 75% des filles sont mariées avant leur 18e anniversaire d'après des statistiques, soit l'un des taux de mariage d'enfants les plus élevés du monde. Dans ce reportage de Niamey, la capitale, notre correspondant Abdoul Razak Idrissa nous raconte l'histoire d'une jeune femme mariée à 12 ans qui s'est échappée de son foyer et qui a réussi, grâce à une association qui lutte contre ces pratiques, à refaire sa vie.
J'ai une peau au nom de Jamila Moussa. J'ai 27 ans.
C'est dans son foyer, au quartier Kazma de Niamey, que nous avions rencontré Jamila Moussa. Derrière un voile, elle a accepté de nous raconter l'histoire de son premier mariage alors qu'elle n'avait que 12 ans.
J'avais 12 ans quand mon papa m'a donné un mariage au fils de son grand frère. Après le mariage, on m'a amené chez lui et c'est là qu'il a commencé à me frapper, à me battre. Et j'ai fui pour venir ici à Niamey et j'ai rencontré Madame Maria Moussa. C'est la présidente de l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales et c'est elle qui m'a sauvée.
Cette union scellée contre son gré et celui de sa maman n'aura donc pas duré longtemps. Une nuit, elle décide de s'en aller, parcourt plus de 40 km pour monter à bord d'un camion et se retrouver à Niamey dans une famille inconnue. C'est de là qu'elle est conduite au siège de l'association Femmes et enfants victimes de violences familiales de Mariama Moussa.
Jamila, au moment de sa fuite, notre organisation l'avait reçue. Elle était traumatisée. C'est une fille vraiment qui est très intelligente. Avoir le courage à cet âge de fuir, c'est pas chose facile et c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui.
Quelle est aujourd'hui la situation de ces enfants mariés précocement?
Et la situation de ces enfants est très critique. Nous avons un taux de 76%, ce qui est inquiétant et alarmant. La prise de conscience est là, mais pas à tous les niveaux. Le fait de dénoncer, pour nous, c'est déjà un pas de gagne.
Des cas comme celui de Jamila, la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales en reçoit régulièrement. La structure les prend en charge comme elle peut. Jamila, par exemple, est recrutée comme femme de ménage au sein de l'association. Et c'est ici qu'elle a rencontré son mari avec qui ils ont aujourd'hui 3 enfants. Elle participe aussi aux activités de sensibilisation sur le phénomène du mariage précoce.
Je lance surtout à l'endroit des parents de laisser les jeunes filles grandir et avoir un esprit ouvert et de faire leur choix de mariage. Puisque maintenant, si moi, par exemple, ça aurait été que c'est moi qui ai choisi mon mariage, je n'allais pas me plaindre auprès d'eux pour les dire que non, le mariage.
Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Irak, les forces pro-gouvernementales ont maintenant dans leur collimateur Mossoul la dernière place forte du groupe État islamique dans le pays, après avoir libéré complètement d'Istel Fallujah, un bastion des djihadistes près de la capitale irakienne. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est rendu hier à Fallujah. Il a appelé ses concitoyens à célébrer la reprise de cette ville située à 50 km à l'ouest de Bagdad. Il a promis que le drapeau irakien sera bientôt hissé à Mossoul, la deuxième ville du pays qui est encore sous le contrôle des djihadistes. Après avoir repris Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, Bagdad a lancé l'offensive sur Fallujah le 23 mai dernier. Les djihadistes ont opposé une forte résistance pendant plus d'un mois. Finalement, hier, les forces irakiennes ont annoncé la victoire totale balles en prenant le contrôle du dernier quartier où s'étaient retranchés les combattants islamistes. Fallujah a été la première cité irakienne à tomber aux mains des djihadistes en janvier 2014. Ils avaient ensuite mené une offensive éclair pour conquérir de vastes régions et annoncer ensuite la création d'un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. Mais depuis plus d'un an, le groupe État islamique a perdu les deux tiers de ses territoires face aux forces irakiennes soutenues par la coalition internationale conduite par les États-Unis.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.